Pendant la Deuxième Guerre mondiale, au cours d'une bataille, quand une armée lançait une offensive, il pleuvait des obus et des bombes qui explosaient de tous côtés, ce qui faisait trembler la terre, tandis que la fumée obscurcissait le ciel. Ce tableau typique fait partie de tous les films de guerre, un grand spectacle qui retrace les conflits passés. Les textes sacrés aussi racontent les conquêtes des empires qui se sont succédés au Moyen-Orient ainsi que les guerres qui sont encore à venir et que seuls les prophètes de l'Éternel peuvent entrevoir. Je continue à lire dans le second chapitre du livre de Joël. Les voilà qui se précipitent comme de vrais guerriers. La terre tremble devant eux, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune sont plongés dans l'obscurité. Les astres perdent leur éclat, tandis que l'Éternel fait retentir sa voix en tête de ses troupes. Son camp est tellement nombreux et il est si puissant, celui qui exécute sa parole. Le jour de l'Éternel est grand et terrible à l'extrême. Qui pourra l'endurer ? Versets 10 et 11. Ici encore, dans la plaie de Sauterelle, Joël voit se dessiner le jour de l'Éternel, grand et terrible. Ce passage décrit donc une calamité d'insectes et l'attaque de la Palestine par des armées à la fin des temps. C'est bien Dieu qui est à la tête de ces invasions parce que ce sont des jugements qu'il a ordonnés et qu'il exécute en personne. Et son cri de guerre sème la panique. Ces tonnes d'insectes qui avancent en un vaste mouvement coordonné font trembler la terre, et leur arrivée ainsi que leur départ en immenses nuages obscurcit la lumière du soleil, mais en partie seulement. Par contre, au jour de l'Éternel, à la fin des temps, les phénomènes cosmiques inhabituels que prophétise Joël s'accompliront littéralement. Notre planète et toutes celles du système solaire, et peut-être même de tout l'univers, seront violemment secouées. Plus loin dans le livre, le prophète dit une nouvelle fois que l'Éternel donne de la voix, et le ciel et la terre sont ébranlés. Jésus a utilisé le même langage que Joël quand il a parlé de son retour en gloire. Il a dit « Immédiatement, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. » Dans les Écritures, quand Dieu manifeste sa colère, toute la création se met au garde-à-vous, en quelque sorte, pour exprimer sa crainte et son profond respect. Après sa victoire sur les Cananéens, le juge, ou plutôt la juge Déborah, chanta un cantique dans lequel l'intervention miraculeuse de Dieu est exprimée sous forme poétique. Elle dit « La terre se mit à trembler et le ciel se fondit en eau. Les nuées déversèrent une pluie abondante. Devant toi, Éternel, les montagnes ont vacillé. » Et le psalmiste écrit « La terre s'ébranle et chancelle, les fondements de ces montagnes se mettent à frémir, tout secoué par sa colère. Tes flèches sillonnaient le ciel dans tous les sens. Au fracas de ta foudre, du sein de la tornade, l'éclat de tes éclairs illuminait le monde. La terre s'effraya et se mit à trembler. » Les ténèbres et l'obscurité sont un autre signe qui accompagne le jour de l'Éternel. À la fin des temps, Dieu manifestera sa colère et secouera terre et ciel plus qu'à tout autre moment de l'histoire de l'humanité. Le prophète Ésaïe écrit « Voici venir le jour de l'Éternel, ce jour impitoyable, jour de fureur et d'ardente colère qui réduira la terre en un désert et en exterminera les pécheurs. Alors les étoiles du ciel et toutes leurs constellations cesseront de briller. » Le soleil sera obscurci dès son lever. Il n'aura plus de clarté répandue par la lune. J'interviendrai contre le monde pour le punir de sa méchanceté et contre ceux qui font le mal à cause de leurs injustices. Je mettrai fin à l'arrogance des insolents. Je ferai tomber l'orgueil des tyrans. Je rendrai les humains plus rares que de l'or fin, plus rares que de l'or d'Ophir. J'ébranlerai le ciel, et cette terre sera secouée sur ses bases par la fureur de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, au jour où il déchaînera son ardente colère. » Fin de citation. Quand Joël demande « Qui pourra endurer le jour de l'Éternel ?», c'est bien sûr une question de rhétorique qui demande pour réponse « Personne ». En parlant du jugement du jour de l'Éternel, grand et terrible, qui précédera son retour en gloire, Jésus a dit « Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps de calamité. » Fin de citation, je continue le texte de Joël. Mais maintenant encore, l'Éternel le déclare, « Revenez donc à moi, revenez de tout votre cœur, avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations. » Verset 12. Joël change radicalement de ton. Il passe des menaces de jugement à une invitation à la repentance. En général, l'objectif des châtiments de Dieu est d'amener les personnes concernées à reconnaître leurs fautes et à les délaisser. Moïse a dit aux Hébreux qui allaient entrer en terre promise, « Si, après avoir été châtiés, vous revenez à l'Éternel, votre Dieu, et si vous l'écoutez en obéissant de tout votre cœur et de tout votre être, vous et vos enfants, à tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, alors l'Éternel, votre Dieu, aura compassion de vous, il vous restaurera et vous rassemblera pour vous faire revenir de chez tous les peuples parmi lesquels il vous aura dispersés. » Joël appelle ses contemporains à revenir à l'Éternel en vérité sans hypocrisie et du fond du cœur afin de renouer leur relation avec lui. Il apparaît donc que d'une manière ou d'une autre, le peuple s'était détourné de Dieu, ce qui confirme que les sauterelles étaient bel et bien un jugement et pas simplement un mauvais coup du sort, façon de parler bien sûr. Le prophète demande donc à ce que le retour à Dieu soit authentique, c'est-à-dire qu'il doit être individuel et se faire en chacun, en son fort intérieur. Les rites et les gestes sacrés sont peut-être monnaie courante dans toutes les religions du monde, mais elles n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Les gens s'imaginent qu'en faisant certaines choses, que ce soit allumer une bougie, brûler de l'encens, aller en pèlerinage ou faire des courbettes, cela va satisfaire le Dieu du ciel. C'est une grosse erreur de croire cela, car Dieu n'aime pas les simagrées. Il désire que ceux qui viennent à lui soient sincères et prêts à s'humilier devant lui. Cela dit, quand quelqu'un est convaincu de sa culpabilité devant Dieu et qu'il éprouve du remords, il est de bon ton de le manifester extérieurement d'une manière ou d'une autre. Pour cette raison, Joël mentionne le jeûne et les larmes comme signe d'une repentance authentique. Une des responsabilités de tous les parents est d'apprendre à leurs enfants certains comportements qui sont essentiels ou indispensables pour qu'ils puissent fonctionner d'une manière satisfaisante en société. Très tôt, les enfants se disputent et se battent comme des chiffonniers. Les parents doivent alors enseigner à chacun d'entre eux individuellement à reconnaître ses torts et à demander pardon. « Dès que ma fille cadette a eu 4 dents, elle les a plantées dans le bras de sa sœur. À plusieurs reprises, j'ai dû intervenir dans des empoignades entre mes enfants et leur apprendre les bonnes manières. » À ces occasions, j'ai été surpris de constater combien il était difficile pour un enfant coupable de desserrer les dents. Il préfère aller bouder dans un coin plutôt que de dire pardon, même du bout des lèvres. Pourtant, cet apprentissage est indispensable dans l'éducation de tout bout de chou, car s'il ne se fait pas, il s'en suivra tôt ou tard des conséquences néfastes. Par contre, si l'enfant met en place ce comportement tôt dans sa vie, il s'en trouvera très bien. Il sera apprécié des autres, adultes et enfants, et il lui sera plus facile de s'humilier devant Dieu. Je continue le texte. déchirez votre cœur et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. » Verset 13. Joël met à nouveau l'accent sur la nécessité d'une repentance sincère. Il exhorte ses contemporains à revenir à Dieu du plus profond de leur cœur. Ce n'est qu'après avoir fait cette démarche intérieure qu'il est convenable de manifester sa douleur en se revêtant d'habits de deuil d'un sac de toile et en se couvrant de cendres comme c'était l'usage dans l'Antiquité. Il est écrit du roi Josias que lorsqu'il entendit le contenu de la loi, il déchira ses vêtements parce que de toute évidence, il se rendait compte que lui et son peuple avaient transgressé les commandements et il en était profondément affligé. Sa contrition était sincère. Son cœur déchiré, le roi a déchiré ses vêtements. Ensuite, il a consulté Dieu qui lui a répondu. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu as entendu les paroles contenues dans ce livre. Ton cœur s'est laissé toucher. Tu t'es humilié devant Dieu en entendant ce qu'il a décrété contre ce lieu et contre ses habitants. Tu t'es humilié devant moi, tu as déchiré tes vêtements et tu as pleuré devant moi. De mon côté, moi aussi, j'ai entendu ta prière, l'Éternel le déclare. Déchirer ses vêtements est une pratique qui remonte à la nuit des temps. Mais c'est une hyperbole parce qu'en réalité, cette coutume consistait à défaire sur une petite longueur la couture, probablement au-dessus de l'épaule. C'était un signe de deuil, l'expression d'une profonde tristesse, d'un grand accablement suite à une tragédie ou à une calamité. Quand Jacob a reçu la tunique splendide de Joseph, son fils, et qu'il a vu qu'elle était toute tachée de sang, le texte dit qu'il l'a reconnue et s'écria « La tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. Alors il déchira ses vêtements et mit un tissu de sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. » Mais il refusa toute consolation et dit « Non, c'est dans le deuil que je rejoindrai mon fils au séjour des morts. » Et il continua à pleurer Joseph. Par contre, la loi de Moïse interdisait aux prêtres de toucher à l'aspect extérieur de leurs vêtements sacerdotaux parce qu'ils étaient considérés comme saints, consacrés à l'Éternel. Et les prêtres n'avaient pas non plus le droit de porter le deuil tant qu'ils étaient de service. Je continue le texte. Revenez à l'Éternel, car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, il est riche en amour et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Verset 13. L'appel au peuple à se repentir se fonde sur le caractère de Dieu, sur sa miséricorde. L'expression « il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère » est une confession de foi fréquente dans l'Ancien Testament. Elle a pour fondement l'autoproclamation divine dans laquelle Dieu a déclaré à Moïse « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité, je conserve mon amour jusqu'à la millième génération. » Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent, et je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la troisième et même la quatrième génération. Le mot traduit par « il renonce volontiers au malheur » signifie habituellement « se repentir », mais il prend un tout autre sens lorsque l'Éternel en est le sujet. En effet, pour expliquer la manière d'agir de Dieu, ses sentiments, ses pensées et ses actes sont parfois présentés comme ceux d'un homme. Ici, l'Éternel annule sa menace parce que son peuple a changé d'attitude. Il faut savoir en effet que Dieu punit uniquement parce que sa justice l'exige, mais qu'il n'y trouve aucun plaisir. Ce qu'il veut, c'est étendre sa bénédiction sur ses créatures. Jérémie écrit « ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie et qu'il afflige les humains. Et par la bouche du prophète Ézéchiel, l'Éternel dit à son peuple, « Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant ?» demande le Seigneur, l'Éternel. « Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive ?» Il est donc possible de faire changer Dieu d'avis et de le fléchir, mais cela n'est vrai que pour ses promesses ou menaces conditionnelles. Par la bouche de Jérémie, l'Éternel dit « Une fois, je décrète de déraciner une nation ou un royaume, de le renverser et d'amener sa ruine. Mais si cette nation que j'ai menacée cesse de mal agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'avais projeté contre elle. Et si par contre, je parle de construire et de planter telle nation ou tel royaume, mais que cette nation fait ce que je considère comme mal et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais parlé de lui faire. Par contre, dans sa souveraineté absolue, Dieu ne change pas d'un iota et ce qu'il décrète ne peut pas être modifié. » Je lis un passage. « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se repentir. » A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Comme généralement, nous ne savons pas ce que Dieu a décidé d'avance concernant une affaire qui nous concerne, nous avons parfaitement le droit de lui demander d'agir dans le sens qui nous convient le mieux et de discuter avec lui. C'est ce qu'Abraham a fait au sujet de Sodome en faisant baisser les enchères, en diminuant le nombre de justes nécessaires pour que Dieu renonce à détruire la ville et toute la vallée. Plus tard, en plein désert, et alors que Moïse était sur le mont Sinaï avec Dieu, dans la plaine, le peuple hébreu s'est fabriqué un veau d'or en guise de divinité. Alors l'Éternel a dit à Moïse, « Je constate que ce peuple est un peuple rebelle, et maintenant, « laisse-moi faire, ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Mais Moïse a supplié Dieu et lui a donné 3 arguments différents pour qu'il renonce à éliminer le peuple. À la fin, le texte dit « Alors l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il l'avait menacé. » Mais il n'est évidemment pas toujours possible de négocier avec Dieu. Alors que Moïse conduisait les Hébreux dans le désert, ils ont manqué d'eau. Alors l'Éternel lui a dit de parler à un rocher pour qu'une source en jaillisse. Mais Moïse était tellement en colère contre le peuple qu'il a perdu son sang-froid. Alors, au lieu de parler au rocher, il l'a frappé 2 fois. Suite à cet incident, Dieu a dit à Moïse et à son frère Aaron, « Vous ne m'avez pas été fidèle et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur destine. » Plus tard, Moïse a essayé de fléchir Dieu en lui disant, « Permets-moi, je te prie, de traverser le Jourdain pour voir ce bon pays qui se trouve de l'autre côté, cette belle contrée montagneuse et le Liban. » Mais l'Éternel lui a répondu, « Assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet et promène tes regards vers l'ouest, le nord, le sud et l'est et contemple le pays de tes yeux, mais tu ne passeras pas le Jourdain. » Fin de citation. Je continue le texte de Joël. Qui sait, peut-être l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il lui aussi de ligne de conduite? Qui sait s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction pour que vous puissiez faire des offrandes, des libations à l'Éternel, lui qui est votre Dieu? Verset 14. Ce qui importe le plus à Joël n'est pas la disparition des sauterelles, mais le rétablissement du culte, parce que cela signifierait la reprise d'une relation normale entre Dieu et son peuple. Les paroles « qui sait » attestent la souveraineté de Dieu. Après que le prophète Jonas s'est annoncé le jugement de Ninive, ses habitants se sont repentis et ont dit « Qui sait ? Peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas ?» Quand Dieu pardonne, c'est par pure grâce et jamais un dû, car la repentance n'est pas un acte méritoire. Ce n'est pas parce que je change de comportement que j'ai droit à une médaille. Je continue le texte. Sonner du cor dans les murs de Sion pour publier un jeûne et annoncer une réunion cultuelle. Réunissez le peuple, convoquez l'assemblée, rassemblez les vieillards, regroupez les enfants, même les nourrissons, que le jeune marié abandonne sa chambre, que la jeune mariée quitte aussi la chambre nuptiale. Versets 15 et 16. Le mot pour chambre nuptiale désigne le dais, l'ouvrage qui surmontait le lit des jeunes mariés pendant leur lune de miel. En Israël, l'époux était dispensé de service militaire la première année de vie conjugale. Mais ici, l'heure est tellement grave qu'il n'existe aucune excuse valable pour ne pas aller au temple. Tout le monde doit y aller, les jeunes comme les vieux et même les nourrissons, car dès leur plus tendre enfance, ils doivent apprendre à révérer l'Éternel et à s'humilier devant lui. Alors que le premier son du cor a donné l'alarme, celui-ci est une sainte convocation de tout le peuple à participer à une manifestation cultuelle afin d'implorer la miséricorde divine. Crier à Dieu. Voilà une idée originale et nouvelle pour ceux qui nous gouvernent, surtout que c'est une vraie solution en temps de crise.